Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train.
Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous.
Aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs fascinantes de l'océan avec Cyrielle. Journaliste à impact depuis des années, notamment sur BFM Business, Cyrielle est aussi et surtout une intrépide exploratrice des mers et une grande amoureuse des requins. Petite, c'est avec son papa qu'elle apprend à plonger. Mais elle est très vite essoufflée et ne sait pas très bien nager. Alors, elle choisit de délaisser les fonds marins pour un temps. Heureusement, car à 27 ans, on lui décèle une grave malformation du cœur. Après une opération à risque et la pose d'une prothèse cardiaque, Cyrielle décide de faire tout ce qu'elle a toujours rêvé de faire. Elle s'envole donc pour les Galapagos. Et lors d'une plongée classique, elle tombe nez à nez avec des requins marteaux. Cette rencontre, totalement magique, va changer le cours de son existence. Elle décide ce jour-là de consacrer sa vie à la sauvegarde des requins, qui sont plus de 100 millions à être tués chaque année. Alors, elle part les rencontrer dans toutes les mers du monde. Elle enquête sur leur rôle et leur importance dans l'écosystème marin, et se lance même dans la réalisation d'un grand film bientôt sur nos écrans. Avec son sourire immense, sa tignasse blonde et son énergie communicative, elle nous explique comment plonger avec ses prédateurs marins est devenu sa thérapie personnelle. L'importance des gestes à connaître avant d'affronter ses mastodontes, mais aussi ses plus belles rencontres et ses grandes frayeurs sous l'eau. Hello Cyrielle.
Bonjour Marie.
Je suis trop contente de voyager avec toi aujourd'hui.
T'as pris tes masques, ton masque et ton tuba.
Mon rêve, ouais. Mais je te raconterai ma petite plongée requin perso. Au fil de notre interview, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu et raconter qui tu es ?
Je crois que c'est la question la plus difficile, parce que qui je suis, tout d'abord je pense une slasheuse, c'est-à-dire que je pense que j'aime faire beaucoup de choses en même temps et pas me réduire à une simple tâche, en tout cas dans mon domaine professionnel. Donc journaliste, oui. Grande rêveuse, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, voilà, en plein changement de vie pour la deuxième fois, et je m'attaque au monde du documentaire incarné. Donc, je peux dire peut-être scénariste. Mmh. J'ai créé mon premier scénario. Peut-être réalisatrice. Et voilà, donc dans la production.
Alors, il va être à propos de quoi ce documentaire ?
Sur un peu mon commencement et ma notion vis-à-vis de l'océan. Comment j'ai rencontré, c'est ça, en fait c'est une rencontre, comment j'ai rencontré l'océan quand j'étais jeune, avec mon père, grâce aux bouteilles de plongée, et l'histoire d'une petite fille qui ne savait pas nager, parce que j'étais toujours la plus nulle en natation, et ça touchait beaucoup mon égo de jeune fille, moi qui aimais pas avoir une faiblesse, mais en fait je m'en suis rendu compte à 27 ans pourquoi. Et quand à 10-12 ans, on est en cours de natation et qu'on est complètement essoufflé en surface et qu'on n'arrive pas à faire un crawl et qu'à chaque fois, on trouve des excuses pour ne pas aller en cours de natation parce qu'on a honte, c'est un peu ça. Et donc, ça va être l'histoire de Cyrielle qui ne sait pas nager, qui avait un cœur défaillant. Et pourtant, elle va réaliser et elle va écrire son premier film sur l'océan. Donc, je vous laisse comprendre voilà, comment. Mais ce sera donc sur l'océan. Et puis c'est plus beau et inspirant et mystérieux prédateurs que sont les requins. Il y en a plus de 540 espèces. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre.
Oh, tu vas nous raconter. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la petite Cyrielle, déjà entre 12 et 27 ans? Tu nages pas ou t'es déjà amoureuse de l'océan? C'est quoi cette période de ta vie?
J'aime pas l'eau froide. Donc mon papa, qui était un ancien, quand il était plus jeune, il était skipper, moniteur de plongée, moniteur de ski. Donc j'aime skier, j'aime plonger. Skipper, c'est pas pour moi. et j'ai eu de la chance, j'ai fait une vingtaine de plongées avec mon papa. C'était en Bretagne, c'était vers Perpignan. C'était pas forcément des eaux très chaudes, hein, moi qui suis frileuse. Mais en tout cas, j'ai trouvé un apaisement dans l'eau. Pour la première fois, parce que nager, j'aimais pas, que ce soit en piscine et en mer. Et avec les bouteilles de plongée, moi qui suis une rêveuse, donc beaucoup dans ma bulle, surtout étant jeune, c'était vraiment dans ma bulle. Je sais pas si c'est le fait d'être une gémeaux pour celles et ceux qui y croient, mais vraiment, je suis une rêveuse et j'aime bien être dans mon univers. Voilà. Et dans l'océan, Donc, dans la mer Méditerranée ou en Bretagne, etc., c'est vrai que j'étais bien sous l'eau. J'étais bien, je prenais du temps, je regardais, je jouais avec les poissons, j'esquivais les murènes et j'étais bien. Mais j'ai eu, entre guillemets, cette chance, je ne sais pas pourquoi, mais pendant, 16-18 ans, je n'ai pas remis une bouteille sur le dos et je n'ai pas replongé.
Donc, tu as été loin de l'océan pendant 16-18 ans.
Voilà.
Tu as vécu ta vie urbaine,
terrienne.
Journaliste à fond, tu as bossé et tu n'es pas retournée voir l'océan.
Je ne suis pas retournée voir l'océan, pas avec une plongée, pas en bouteille. Et heureusement, j'ai envie de te dire.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après?
Eh bien, il se trouve qu'en 2014, je me fais opérer du cœur. Je suis diagnostiquée, notamment grâce à une visite médicale la veille d'un voyage humanitaire avec Action contre la faim pour aller dans les camps de réfugiés au Bangladesh voir les Rohingyas. Quand je fais juste une simple visite à l'Institut Pasteur, la veille d'un départ...
Donc c'était une visite obligatoire?
Non, c'est une amie qui m'a interpellée en me disant « Cyrielle, tu vas dans des zones reculées, tu vas dans des camps de réfugiés, tu vas dans un pays où il y a la dengue, où il y a peut-être des maladies liées aux moustiques, qu'est-ce que tu ne voudrais pas, prendre de la malarone, te faire checker parce que tu vas quand même très loin ?» Je lui dis, c'est vrai, merci de me planter la graine, merci de m'avoir mis le doute, ma copine, mon amie Caroline. Grâce à Caroline, je suis en vie aujourd'hui parce que
tu fais ce petit check.
Je fais ce petit check, donc je me fais vacciner. J'en profite, hépatite A, hépatite B, fièvre jaune. Heureusement, parce que je suis retournée en Afrique après. Et là, le docteur généraliste à l'Institut Pasteur, le docteur Julia Gotch, je lui dois ma vie. D'ailleurs, je suis retournée la voir pour la remercier après cette opération. Elle m'a dit, vous avez un souffle au cœur. Au stéthoscope, elle me dit, j'entends un souffle au cœur, est-ce que vous êtes au courant? Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un souffle au cœur? Elle me dit, ça peut être bénin, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une ordonnance, je vous laisse partir dans les camps, je vous laisse partir faire votre mission humanitaire. Par contre, en revanche, au retour, allez faire un check-up, allez voir donc un cardiologue. Donc, c'est la première fois que j'allais voir un cardiologue. Je pars en mission humanitaire, c'est là que, effectivement, les bidonvilles, les slums, comme on dit, les camps de réfugiés, choc de ma vie, je me suis dit je n'ai plus jamais le droit de me plaindre, même si à l'époque j'étais au chômage, même tombée peut-être au RSA, parce que je suis partie en quête de sens quand même un an auparavant, donc vraiment me suis jetée dans le bain pour me trouver. Et cette mission finalement m'a permis de me révéler et de me soigner. Donc cette mission m'a permis de me déceler une pathologie, c'est-à-dire que quand je suis rentrée de mission, je suis allée voir ce cardiologue qui me fait une échographie cardiaque très importante. C'est pas les électrodes qui m'ont permis de diagnostiquer ma maladie, ma malformation cardiaque congénitale. C'est véritablement une échographie, j'insiste, mesdames. Parce que c'est plus une pathologie d'ailleurs féminine qui peut donner suite à un AVC. Donc, grâce à l'échographie, on a vu que mon cœur était sous tension, qu'il était difforme, et donc on a fait un check-up. Et c'est grâce à une échographie transœsophagienne, ce gros tube-là qu'on met dans l'œsophage, qui m'a décelé, le fait que, comme une naissance sur 100, on est mal formé. Donc, on m'a diagnostiqué ma malformation. Cette formation, je l'avais depuis ma naissance, sauf qu'elle s'est révélée donc en juin 2014, donc pour mes 27 ans. Et on m'a dit, vu l'état de votre cœur, vu la grosseur, en tout cas, de ce trou que vous avez, il fallait reboucher. C'est le trou qui était dans l'oreillette. On vous donne 10 jours pour trouver une date d'opération. Là, c'était fucking hard. Voilà, comme on dit, c'était très, très dur parce que, genre, dans 10 jours, j'allais me faire opérer du cœur. Et on me disait, dans quelques heures, on va faire on va faire des mesures sur votre cœur et on saura si on vous ouvre à cœur ouvert ou on va passer par en intraveineux. Donc là, bien évidemment, je viens d'avoir 27 ans. Comme disaient les Gaulois, j'ai le ciel qui me tombe sur la tête, mais littéralement, je me mets à pleurer matin, midi et soir. Et j'ai, pour la première fois, je suis confrontée à la mort, moi à 27 ans. Voilà, et donc plus rien ne compte.
Mais attends, si t'étais pas allée chez ce médecin...
À l'Institut Pasteur.
À l'Institut Pasteur. Un jour, tu fais un AVC, en fait, c'est ça cette maladie?
Oui.
Ok. Et ce trou, il est là depuis ta naissance?
Oui.
Ok.
C'est pour ça que c'est important. Donc, message de prévention, mesdames et messieurs, surtout les parents. Ou même pour vous, d'ailleurs, si vous n'avez jamais été faire une échographie cardiaque. Mais mon Dieu, allez-y. Et si vous avez des enfants à partir de 12 ans, je vous en supplie, vous pouvez sauver des vies. Mmh.
Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc, pendant 10 jours, tu pleures?
Ouais, complètement. Je dis adieu à tout le monde. J'apprends à dire je t'aime parce que je me dis de toute manière, je peux raccrocher, peut-être que je ne serai pas survivante. Et le 9 juillet 2014, voilà, je vais en clinique et là, c'est les plus longues heures de ma vie. Et j'ai jamais autant pleuré, autant. Enfin, là, en vrai, je viens de perdre ma maman, donc je lui ai dédié mon film. C'est pour ça que j'ai une petite voix. Mais voilà, c'est le deuxième choc après mon opération du cœur. Mais je vais lui dédier, voilà, ce film à ma maman.
Pour maman.
Mais voilà, donc cette opération m'a bouleversée, a changé ma vie. Et à partir de là, je me suis dit, quand je me suis réveillée, que j'étais vivante, je me suis dit, waouh, c'est comme si j'avais eu cette mission de l'univers en disant, in extremis, tu as été sauvée. Mais du coup, maintenant, il faut le rendre. Et le rendre, c'est tendre mon micro à des gens comme ces humanitaires qui changent le monde, ou je préfère dire soignent le monde, heal the world.
Attends, et juste retour sur image. De 20 à 27 ans, t'as fait quoi comme métier? T'étais pas du tout journaliste?
Si, j'ai commencé à faire mes armes chez Direct 8 à l'époque, groupe Bolloré, aujourd'hui c'est C8. Et j'étais journaliste pour une émission animalière.
D'accord, ok. Ouais. Donc t'étais quand même déjà un peu
Le bain. En fait, depuis que je suis toute petite, il faut le dire, et j'étais encore devant son podcast tout à l'heure, que je regardais sur YouTube, il y en a une, only one, qui m'inspire depuis que j'ai 6-8 ans, c'est Oprah Winfrey. Parce qu'aux États-Unis, ils ont cette capacité à ne pas mettre des gens dans les cases. C'est-à-dire qu'Oprah Winfrey, elle fait autant des interviews politiques qu'avec des artistes, que parler de spiritualité.
Donc c'est
Je pense que chez nous, ça n'existe pas trop. Elle fait des shows sur tous les formats, que ce soit de la télé, en podcast, en radio. Elle écrit des livres et elle parle véritablement de tout, de pensées positives, de loi de l'attraction, de spiritualité, tout comme elle peut l'idée des interviews avec Barack Obama, etc. Donc ça, je la trouve fascinante.
Donc t'étais journaliste quand même, mais ce jour-là, en 2014, ça switch, tu vas être journaliste à impact,
de solutions,
soigner la planète, voilà. Trouver des solutions. Tu portes un peu plus de sens, quoi.
Exactement.
Mais tu vas toujours pas plonger.
Non.
Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tu retournes dans l'océan?
En 2019. Mm-hmm. En 2019, j'ai l'opportunité. Je pars aux Bahamas pour la première fois de ma vie. Je réalise un de mes rêves parce que c'est vrai qu'après avoir côtoyé la mort, j'ai envie de vivre ma vie pleinement, comme on dit. Live life to the fullest. J'ai véritablement envie de vivre mes rêves. Et les Bahamas en faisaient partie. Et c'est là que je vois genre 3 requins pour la première fois de ma vie. J'avoue, je savais pas bien
gérer. Attends, je te coupe, mais t'as le droit de plonger. Après cette opération, t'as le droit de faire tous les sports. Toi, on est tous pareils aujourd'hui? Ou toi, t'es plus faible, tu dois faire attention?
Je ne le mentionne plus.
D'accord, ok.
Parce que c'est trop une niche de dire aujourd'hui, j'ai une prothèse dans le cœur. Est-ce que je peux plonger? Logiquement, mon cœur va bien. Bien évidemment qu'il ne faut pas que j'ai une bactérie qui arrive dans mon cœur. Il faut, dès que je suis malade, mes bronches étouffent vite, que je prenne des antibiotiques. Il ne faut pas que ça s'infecte. Il faut toujours que ça reste
maîtrisé.
Que ce soit sain et maîtrisé. Et je ne le dis plus. Mon cardiologue, quand je lui ai dit que j'ai fait une narcose à 56 mètres, il m'a dit « mais t'es complètement folle ». Mais je ne le dis plus aujourd'hui. Parce que j'estime, et c'est beaucoup dans la tête, tout va bien.
Ok.
Et c'est ma passion aujourd'hui, si on m'enlève ça, c'est m'enlever une partie de mon cœur et c'est pas possible. Donc non. Donc en 2019, je vois les requins, je les vois un peu de loin, je suis pas rassurée, mais j'ai pas le déclic. 2 ans plus tard, en 2021, autre rêve, Galapagos. J'étais à deux doigts du burn-out et je me suis dit, cet été, il faut que je me ressource. Et pour moi, me ressourcer, c'est pas aller dans des endroits connus, c'est d'aller dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça s'appelait les Galapagos, c'est en face de l'équateur, c'est dans l'océan Pacifique. Et là, je me dis, ok, je veux replonger. Pourtant, pas très chaude non plus, pour la frileuse que je suis. Et la première plongée, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est ce qu'on appelle, on voit des gros. Des gros, c'est-à-dire, je vois des raies, des tortues marines. Et là, j'ai halluciné. Fermez vos yeux, imaginez un mur devant vous, immense. Sauf que ce mur, ce n'est autre qu'une cinquantaine de requins, de requins marteaux, qui passent devant vous sans vous calculer. Et ils avancent en bande. Là, j'ai arrêté de palmer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon moniteur, je me suis dit, va rester près de moi. Pas du tout, Coco. Il a allumé sa GoPro, il a étendu son bras, il avait en plus la GoPro sur une perche. Et il se palmait vite pour aller les filmer au plus près. Et je me suis dit, mais il est chelou. Et après, je me suis dit, c'est marrant, lui, c'est un professionnel, il plonge chaque jour. Il n'a pas peur des requins. Toi, tu es complètement une novice et tu arrêtes de palmer et tu as le cœur qui s'emballe. Là, je pars en arythmie. Et là, j'ai eu un déclic. Et quelques jours plus tard, le lendemain et tout, j'essaye finalement de me dire, si je pouvais moi aussi m'approcher des requins, parce que bizarrement, ils ne sont pas venus me croquer. Pourquoi? Je suis fan de films d'horreur et tous les nanars avec les requins, je les ai vus. Aujourd'hui, j'en ai marre. Et là, je me suis dit, c'est étrange. Je me suis souvenue qu'en 2013, quand j'étais journaliste animalière pour le groupe Canal+, j'avais terminé ma saison sur un reportage tourné au musée océanographique de Monaco qui mettait en lumière l'importance des requins dans la chaîne alimentaire océanique et dont ce chiffre que je vais rappeler dans mon film, et je ne serai pas la seule, il y a beaucoup d'experts qui sont là pour le souligner, 100 millions. Aux alentours de 100 millions, voire plus, de requins sont tués, sont vidés de nos eaux chaque année.
Et pourquoi? Pourquoi on les tue, les requins?
Très bonne question, Marie.
Je sais, j'ai bossé.
Le marché asiatique.
Ah oui?
Ils mangent, dans leur plat traditionnel, les élans de requins.
Donc c'est pour ça qu'on les tue, pour la nourriture?
Ouais, exactement. C'est gorgé de mercure, c'est pas bon du tout. Mais c'est un mets, ça s'appelle la tradition culturelle. En Asie, en Chine, ils sont quand même plus d'un milliard. Donc, c'est un marché où ça peut aller, je crois, une soupe peut aller à plusieurs centaines d'euros, suivant l'espèce. Donc, c'est terrible parce que le requin, il est en haut de la chaîne alimentaire océanique. L'océan, c'est 70% du globe. Nous, modestes terriens, nous vivons sur 30% de terre. On a l'impression que c'est énorme. L'océan, c'est plus de deux fois plus la surface, c'est 70% du globe. L'océan, c'est 3 milliards de personnes qui dépendent des bénéfices de l'océan. Moi, je ne mange plus de poisson depuis 8 ans, 9 ans, mais vous êtes des milliards à manger du poisson. Nous sommes tous dépendants de l'océan par sa production d'oxygène. Une respiration sur deux, on le doit grâce à la photosynthèse que fait l'océan. Donc les valeurs écosystémiques de l'océan sont importantes aussi bien pour la respiration que pour le tourisme, que pour les petits pêcheurs le queue, que pour effectivement tout le business économique autour des ressources halieutiques. Ça nous concerne tous. Et pourtant, on est en train de déstabiliser sa santé, toute sa chaîne alimentaire, à cause du requin.
Parce que à quoi il sert le requin? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de requins?
Ils sont là pour manger notamment les animaux morts, les animaux faibles. En mangeant parfois certaines espèces, ils empêchent des maladies de se disperser. Certains requins se nourrissent dans les abysses. Quand ils remontent des abysses pour venir vers les coraux, qu'est-ce qu'ils font? Ils digèrent. Dans la digestion, ils font des excréments. Et ces excréments, c'est comme les baleines, elles sont riches en azote. Et l'azote, c'est comme de l'engrais pour les coraux. Et les coraux, c'est 30% de la biodiversité marine qui en dépend. Quand il n'y a pas de coraux, il n'y a pas de vie. Il suffit de mettre la tête sous l'eau, qu'on soit snorkeleur ou plongeur, ça se voit. Il y a des poissons, il y a de la vie quand il y a des coraux. Quand il n'y a rien, c'est juste un fond de sablonneux. Et donc quand on comprend que tout est interconnecté dans l'océan, que suffit de la disparition du haut du prédateur, tout s'effondre. Et quand on voit tout le rôle magique des requins, on se dit, mais mon Dieu, effectivement, si on continue de les décimer, tous ces engrais, etc., ça va tuer les coraux. Les coraux, c'est tous les poissons, ce qui nous produit également l'oxygène. Tout s'effondre. Donc, ça s'appelle un océan vide. Donc, ça va profiter à qui ? Nous, les humains, on adore mettre des valeurs sur des poissons, des valeurs sur... Enfin, tout tourne autour de l'océan, que ce soit le tourisme, etc. Qu'est-ce qui va se passer si demain, on a un océan mort ? C'est des milliards et des milliards, toutes ces ressources halieutiques pour tous les pays du monde. Donc, ça va s'effondrer. Donc,
et on n'interdit pas la chasse aux requins ?
C'est interdit. C'est pas forcément respecté.
Donc c'est interdit, mais on arrive à en tuer 100 millions par an.
Il y a des pays, comme les Maldives, c'est interdit. Tous les pays ne l'interdisent pas.
D'accord. Et je reviens à ta plongée. Donc cette plongée où 3-4 jours après, tu te dis c'est dingue. Lui, il n'a pas eu peur. Moi, j'ai eu peur. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?
Ça m'a excitée. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ai peur ? Et je me suis dit, mais dans tous ces films d'horreur, parce que j'en suis quand même une experte... Je me suis dit, mais le requin, c'est assoiffé de sang et tout. Et bien évidemment, quand on dit peur du requin, je pense que dans une personne sur deux, vous pensez tous aux dents de la mer. Et je me suis dit, du coup, j'ai commencé à regarder les documentaires. Bien évidemment, tous ces documentaires commencent avec les dents de la mer ou Jaws. Et je me suis dit, mais ce serait formidable d'inviter le réalisateur dans mon film.
Steven, please.
Si tu nous entends.
Et tu replonges, alors qu'est-ce que tu fais ? Une fois que tu réalises tout ça ?
Alors, dès que je peux, maintenant, je voyage et je veux plonger dans des zones avec des requins parce que je veux apprendre. Et c'est ce que je dis, c'est devenu un peu ma thérapie. Quand j'étais petite, j'étais dans ma bulle, j'étais bien. Et aujourd'hui, quand je suis sous l'eau, dans l'eau chaude, avec eux, c'est vraiment une thérapie parce qu'en fait, on se sent vulnérable. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas se sentir vulnérable face à une tempête, etc., mais... Et là, je suis fascinée. Je ne suis pas fascinée par une tempête. Là, je suis fascinée par plus grand que moi. Par cette espèce qui est tant décriée. Nous, notre espèce, on en a peur. Et ils sont fascinants. Ils sont là depuis 400 millions d'années. Ils étaient là avant même les dinosaures. Et ils sont juste indispensables. Et en fait, j'ai eu des interactions exceptionnelles avec un requin-tigre à 20 cm de mon visage. Mais je me dis, mais quel respect. Parce que quand on est dans l'eau, on est dans leur territoire... Et l'homme, s'il ne se cache pas derrière son harpon ou son couteau, on est powerless, on est rien du tout. Et c'est ma philosophie. Je n'ai pas prétention de vouloir tuer un animal. Même pour me défendre, enfin, je ne voudrais pas le tuer en tout cas. Mais en tout cas, je me dis quel respect ils ont vis-à-vis de nous. J'ai eu des interactions où, effectivement, très proches des espèces qui pouvaient être, on va dire, peut-être agressives ou curieuses vis-à-vis de l'homme, du plongeur. Et ils me fascinent. Et ils me fascinent parce qu'ils sont majestueux. Mais même les bébés requins, je les trouve fascinants. Des bébés pointes noires. Vous montrez ça à n'importe quel enfant. C'est baby shark. C'est fascinant. Et donc, comme ils sont en danger, comme ils sont vulnérables, en fait, c'est comme ce que j'ai fait en 2014 quand j'ai croisé les réfugiés. Je me suis dit, j'aimerais mettre un highlight. Donc, j'ai fait d'autres missions humanitaires. Je suis partie en Jordanie, pareil, faire des interviews pour Bibliothèque sans frontières de réfugiés syriens. Enfin, voilà, moi, ce que j'aime aujourd'hui, ma raison d'être, c'est peut-être voilà, protéger, communiquer pour mieux protéger. Alors, tout comme j'ai pu le faire voilà, depuis 10 ans via les entrepreneurs Impact, parce qu'ils sont là pour aider la société, pour l'environnement, pour tous ces grands dirigeants qui essaient de faire du business, mais avec un business autrement, tout en protégeant mieux la biodiversité, etc. Bah là, dans l'océan, je me dis, l'un des plus vulnérables et l'un des acteurs phares aujourd'hui de son fonctionnement, ce sont les requins. Et donc, pour maintenant les avoir expérimentés dans plusieurs mers ou océans depuis maintenant quelques années, je suis une grande fascinée. Quand je plonge avec eux, on se sent toute petite. Enfin, en tout cas, je me sens toute petite, vulnérable. J'apprends la patience. Et je suis complètement en admiration. Et mon cœur est apaisé. Alors, parfois, j'ai des interactions. Oui, effectivement, ils arrivent et mon cœur se remet à... Parce que maintenant que c'est vrai, depuis que je suis... j'ai ma prothèse dans le cœur, effectivement, je fais des arythmies, mais constamment. Je peux commencer à être sur scène ou à faire une émission. Pam, j'ai une arythmie. Puis le requin sent. Grâce notamment à ces ampoules de Lorenzini, la fragilité. Donc je me demande si aujourd'hui, d'ailleurs, ces mammifères marins, comme j'ai eu une rencontre exceptionnelle avec une baleine à bosse cet été en Polynésie, c'est comme si peut-être que maintenant ces mammifères, enfin le requin est un poisson, la baleine est un mammifère, ressentaient peut-être cette fragilité ou ce petit tac-tac-tac dans mon cœur avec cette prothèse. Mais
t'es pas comme les autres, quoi.
Ouais, c'est comme si voilà, on sentait ma singularité et peut-être ce morceau de ferraille dans mon cœur. Et puis voilà, puis mon cœur qui pop, 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 est plus que vivant. Dès qu'il a peur, il s'emballe. Dès qu'il est stressé, il s'emballe. Parfois, même dès qu'il est bien, il s'emballe. On se dit,
mais quand mais est-ce que... montre qu'il est là.
Voilà, il vit. Il me rappelle que je suis en vie. Et il me rappelle aussi la fragilité de la vie, donc me concernant, mais également la fragilité de notre environnement. Et donc, dans mon film, le message principal, c'est en fait, le requin, on pense qu'il est vulnérable, mais le requin, quand il nous regarde... Je pense qu'il devrait voir la même chose parce que la situation des requins n'est que le miroir, n'est que le reflet de la situation humaine.
Non, mais t'as raison.
Mais
qu'est-ce qui se passe quand tu rentres des Galapagos concrètement, en fait? Qu'est-ce que tu fais?
Je suis absorbée et je commence à me documenter, à regarder, à suivre les influenceurs, les experts sur les réseaux sociaux, à les suivre. Regardez comment interagir avec les requins. Et là, je me suis dit, quand est-ce que je peux retourner avec les requins? Quand est-ce que je peux retourner plonger avec les requins? Et c'est là que 6 mois plus tard, je passe les fêtes toute seule, je prends un billet, je pars toute seule et je me suis dit, dans les eaux chaudes. Et je vais aux Maldives. Les Maldives est un sanctuaire, protège les requins. Donc effectivement, quand vous êtes un amoureux de la biodiversité marine, c'est exceptionnel.
Donc 6 mois après, tu replonges? Et tous les instructeurs que tu as rencontrés, ils sont OK pour plonger avec les requins?
Naturellement.
Ouais.
Ils sont passionnés.
Et il n'y en a pas un qui dit non, c'est dangereux, on va pas là, ou ici, il faut pas rester trop longtemps, etc.
Ils connaissent les comportements, ils connaissent les gestes à avoir, mais c'est un business. J'ai découvert qu'il y avait un véritable business où on faisait des plongées uniquement de requins. Je suis allée en Afrique du Sud il y a quelques mois, je voulais avoir le grand blanc, je n'ai pas eu cette chance. Mais effectivement, c'était shark dive, shark dive. Alors après, il y a la cage.
Mmh. Oui, c'est moi, ça. En Afrique du Sud, il y a beaucoup le truc de la cage et ils nourrissent un peu les requins pour qu'ils viennent tourner autour de toi.
Mais ils nourrissent partout.
Et tout.
En vrai, d'accord. On ne va pas se le cacher. Tous les plongeurs, les apnéistes qui font des images exceptionnelles avec des requins, je pense que la majorité du temps, les requins sont appâtés. Ils sont nourris et puis là, ils font tous des belles images. Donc il y a 2 écoles. Il y a ceux qui veulent que le requin soit naturel et ceux qui font des images incroyables et parce que le requin...
Sinon, il ne viendrait pas vers nous, quoi.
Bah, logiquement, non, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont dans les profondeurs et bizarrement, à 10 mètres, ils ce ne serait pas forcément. Voilà, donc ça, il y a 2 écoles. Je ne suis pas là pour juger, mais vraiment pas. Simplement, voilà, toujours bien évidemment... par rapport aux espèces, le mako, le tigre, etc. Ils ont tous des comportements différents et ça, il faut les étudier. Et pas faire de gestes brusques, pas avoir les mains qui gambadent, être calme et surtout respecter les règles du moniteur parce que nous sommes face à un prédateur. Mais voilà, quand ça se passe bien, et moi je suis triste car dans mon secteur, le journalisme, dès qu'il y a une attaque, ça fait le tour du monde. Mais par contre, on ne relate pas toutes les merveilleuses plongées qui se font chaque jour aux quatre coins du monde et où tout se passe bien. Donc, moi, j'aimerais qu'on partage...
Oui, qu'on arrête d'avoir cette vision négative du requin.
Dès qu'il y a une attaque
non,
de requin, c'est
fou. Il y a un mythe autour
fou.
Du requin, t'as raison.
Comment ça nourrit nos peurs. Et ça continue dans tous les films d'horreur. Le problème, c'est que tuer le requin, c'est... On va dire, c'est tuer peut-être notre futur. Parce que sans le requin, il n'y a pas d'océan et sans océan... Vous avez compris. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être quand même tout de même arrêter d'être un peu plus intelligent. Faites ce que vous voulez dans les films d'horreur, mais faites, je ne sais pas moi, un saumon à 6 têtes, un saumon dévoreur, un saumon mangeur d'hommes. Mais le requin, il faut quand même le sacraliser. Lâcher les requins. Ouais, t'as tout compris. Lâchons les requins.
Et pourquoi on ne plonge pas dans une cage alors?
Alors, bien évidemment, des plongeurs plongent dans une cage. Moi, c'est pas ma conception. C'est-à-dire que moi, j'aime palmer, j'aime bouger, j'aime... Et là, ça veut dire qu'on est figé, on va dans une cage et on attend. C'est comme si tu me disais, fais une kinox sur scène, mais tu bouges pas. Tu restes comme un planté comme un bâton. Je serais là, mais en fait, non, j'ai besoin d'occuper l'espace, j'ai besoin de... Bah, c'est pareil en plongée. Moi, si tu me dis tu ne bouges pas et t'es là à attendre, en plus, ça met une distance entre l'homme et l'animal. C'est tout ce que je veux pas. Je veux montrer qu'il y a une coexistence possible quand on est, quand on respecte l'animal et quand on arrête également de faire des ravages. Et quand on dit ravage, c'est-à-dire vider nos océans. Et quand on vide nos océans, bah, on vide leur garde-manger. On vide leur frigo, en fait. Donc oui, ils se rapprochent des côtes, sauf que près des côtes, bah, on est là. Donc ça s'appelle des interactions qui n'étaient pas anticipées. Le requin n'est pas mangeur d'hommes. Hein. Logiquement, on n'est pas censé se croiser. Je ne sais plus d'où je viens, où j'ai lu ça, où je viens de le voir dans un documentaire. Mais on ne fait pas partie de sa chaîne alimentaire. Nous sommes terriens, ils sont mériens. C'est juste que quand on est en surface, que l'eau est trouble, peut-être qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas une très bonne vue, eh bien, on fait des splashes avec nos bras, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, il va juste faire normalement une shark back, comme on dit. Et là, il se dit, bon, bah, c'est pas, ça me correspond pas. Et il part. 99% du temps, c'est ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour plonger avec des requins, alors? Tu disais, il y a quelques règles qu'il faut connaître. C'est quoi?
On s'apaise. On ne met pas les bras dans tous les sens. On ne splatche surtout pas en surface. C'est malheureusement ce qui est arrivé au jeune qui, il y a quelques mois, qui est parti. C'était en mer Rouge, de mémoire. C'est terrible, mais les gestes, c'est toujours regarder le requin dans les yeux. Donc avoir un masque. C'est ce qu'on dit. N'allez pas vous aventurer dans la mer, dans l'océan, sans masque. Il faut toujours pouvoir l'affronter dans le regard. Et s'il y a un requin qui s'approche tout près, c'est génial d'avoir une caméra, parfois une GoPro, même si c'est plus petit. Et quand on n'a rien, bah, c'est jamais lui tourner le dos. Donc, toujours l'affronter. Et s'il s'approche véritablement, toujours faire quelque chose pour le repousser. Si on l'a pas, c'est véritablement les branchies et les yeux. D'accord. Et j'ai rencontré à Los Angeles il y a quelques semaines, j'ai fait j'ai recruté un de mes protagonistes pour mon film. Il lui manque un bras et une jambe et c'était un ancien plongeur de la Navy en Australie. Il racontait que ce jour-là, il y a eu une attaque, c'était dans le port de Sydney. Et qu'il a dit, c'est le destin. N'importe quel autre de ses camarades, s'ils avaient été attaqués par ce requin bulldog, c'était en 2009, ils y seront passés, dont un de ses collègues qui devait être aussi fluet que moi. Il me dit, moi, c'était mon destin. J'étais peut-être le seul à pouvoir surmonter cette attaque. C'est-à-dire que oui, il lui manque une bras, une jambe aujourd'hui, mais de son autre bras, il était costaud. Il a pu justement donner des coups au requin. C'est comme ça qu'il a pu s'en sortir.
Il a donné des coups au requin.
Exactement.
Il a boxé le requin.
Exactement. Et c'est ça qui l'a sauvé. Entre guillemets sauvé, parce que et aujourd'hui, c'est quelqu'un de formidable. Il fait des images extraordinaires avec les requins. C'en est un fervent militant et défenseur. Et je trouve ça magnifique. Donc j'ai hâte de faire son interview dans mon film et de plonger avec lui.
Nous aussi, on a hâte.
Mais voilà, c'est effectivement, c'est l'affronter, le regarder dans les yeux, ne pas faire de gestes brusques et avoir une caméra, une GoPro ou un bâton ou une perche pour toujours éloigner. Et sinon, quoi, s'il y a vraiment malencontreusement une attaque entre guillemets, c'est le repousser via les branchies ou dans les yeux parce que c'est là où ils sont faibles.
Vous plongez armé?
Jamais.
Jamais. Il n'y a jamais quelqu'un avec un harpon ou un...
Jamais. Je n'ai pas jamais plongé avec des plongeurs avec des harpons. Ils ont peut-être des couteaux sur eux, mais ça, c'est surtout... Et c'est important quand on est plongeur, si on se retrouve accroché à un filet, avoir une palme et tout, c'est pouvoir se délester d'un bout de plastique qui nous accroche, etc. Ça, c'est important. Ça, c'est pour une autre survie, c'est pas forcément pour les animaux. Mais sinon, non, jamais j'ai vu un plongeur avec un... C'est simplement, voilà, ils ont une caméra ou un bâton avec eux en ferraille. Et ça permet de les repousser. C'est véritablement, quand on commence à plonger, on désacralise le truc. On dit, ah ouais, donc en fait, pas du tout. En fait, ça se passe vraiment que dans les films ou dans toutes les personnes qui en parlent sans jamais avoir plongé. Donc du coup, mais en fait, une fois qu'on est sous l'eau, qu'on est avec des... On se dit, ah oui, donc en fait, ils n'ont rien à faire de moi. Ah oui, donc là, ils passent devant moi, ils s'en fichent. Ah oui,
ils ne te regardent pas.
Ils ne te regardent pas. Bien sûr qu'ils nous ont vus, mais c'est ça qui est génial. Et en plus, il y a tellement des espèces différentes. J'ai eu la chance j'ai même failli y rester. D'ailleurs, j'ai fait mon Jean-Marc Barre, j'ai fait une narcose à 56 mètres. Donc, pour tous les plongeurs, ils vont se dire, mais elle est
folle.
C'est
quoi une narcose?
Et oui,
déjà.
Ça s'appelle l'ivresse des profondeurs. C'est-à-dire que j'étais complètement high, parce qu'au-delà de 30 mètres, il faut toujours, et on le sait quand on passe son diplôme, c'est toujours regarder son body et voir si tout va bien. Et à 30 mètres, moi, j'ai suivi des requins-renards. Pareil, première fois de ma vie, toujours aux Maldives, je vois des requins-renards avec une longue queue. Et on les reconnaît comme ça, c'est magnifique. Voir un requin avec son énorme queue comme ça qui danse comme un ruban au vent. Qu'est-ce que c'est que cette beauté? Et là, je suis GoPro allumée. C'est une des... Et là, j'entends, j'ai même des vidéos de moi, des rushs, où ma montre fait bip, 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 parce que je suis au-delà. Je suis à 30, 35, 40. Donc là, je suis complète. Et là, j'oublie tout le monde. On appelle ça la palanquée, donc les autres plongeurs. Et là, je suis, mais les yeux écarquillés derrière mon masque. Je ne vis que pour les requins. Et je suis en émerveillement, en admiration totale devant trois requins renards qui sont devant moi. Et là, je suis à 56 mètres et je me pose au sol. Je ne tourne pas la tête à droite, à gauche.
T'oublies toutes tes règles,
J'oublie
en fait.
J'oublie toutes mes règles. Je suis en complètement high. Je suis dans un bien-être et là, je me mets à parler aux requins. C'est complètement lunaire. Là, à ce moment-là, j'appartiens à l'océan.
Et qui te remonte? Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, je me suis fait taper sur les palmes. Hein. Je suis, paf, je me sens remontée. Alors là, complètement en colère. Genre, d'où on me remonte? Genre, laissez-moi faire mon kiff. J'ai un tableau merveilleux unique au monde. On me remonte à la surface. Je n'ai rien à faire de vous, les gars. Je veux juste rester devant les requins. Ils sont tellement incroyables. Et là, on me dit, tu remontes. Et là, je suis en mode, non, les requins sont en bas, je veux redescendre. On me laisse pas le choix, on me met peut-être à 15 mètres.
On te met, c'est-à-dire, quelqu'un te prend la main, vraiment, ils te prennent
pas
la main.
Par la bouteille,
ouais,
par mon tank. Et là, on me ramène, et là, ils m'observent, ils me lâchent pas jusqu'à la fin. Parce
ils ont
que
vu
qu'il
fallait que tu remontes, quoi.
Je suis partie, et là, à la fin, j'étais, oh my God, what the best I've ever, guys. J'étais complètement high, ils ont tous rigolé, ils se sont dit, et après tout au long du séjour, ils m'ont dit, ah, ça c'est la française, c'est
la
plongeuse profonde, dans les profondeurs. Et mais oui, mais en même temps, c'était extrêmement dangereux pour moi. Je n'ai pas vu le danger. Moi, c'était la meilleure plongée de ma vie. C'est-à-dire, j'étais en connexion avec l'océan, j'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir m'enfoncer dans le bleu avec eux et de me dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Donc, c'est un peu une Jean-Marc Barr. Lui, c'était avec les dauphins, moi, c'était avec les requins renards. Et c'était une expérience, mais dinguissime.
Quand tu plonges, à chaque fois, il y a un peu un boss de la plongée. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est responsable de vous, un chef d'équipe. Ou comment ça se passe?
C'est le moniteur.
D'accord. Il y a toujours un moniteur. Même aujourd'hui, vraiment, toi, tu plonges tout
deux,
le temps. D'accord.
Tu peux plonger avec des niveaux 2 comme toi. Donc, moi, niveau 2. Tu peux plonger, donc en niveau 2, tu es en binôme. Mais t'as ton temps, tu regardes bien combien il te reste de barres. À 50 barres, tu dois faire ton palier, tu dois remonter, tu déploies ton parachute là, de sécurité. Et après, le bateau vient nous chercher. Mais toujours, on ne plonge jamais seul, bien évidemment. Et il y a toujours, bien évidemment, au minima, on est niveau 2. Et puis sinon, il y a le dive master avec nous.
D'accord. Et tu t'es déjà fait des frayeurs, à part là où t'étais droguée, t'as eu peur déjà ou pas?
On est face à un requin tigre, ça je m'y attendais pas, parce qu'effectivement, je le savais qu'il fallait regarder dans les yeux, sauf que quand il y a plusieurs requins, je me dis, mais où regarder?
Donc lequel
boss? Quel moment, j'avais ma petite tête, je m'en souviens, sur la droite, et là j'étais pareil, de nouveau dans mes pensées, et là on me prend le bras, j'étais là, mais d'où me prend le bras? Laissez-moi. Et là je tourne ma tête. Là, au niveau, il y a le micro, je suis en train de loucher, mais vous ne voyez pas. Et là, je me retrouve face à une femelle qui doit faire 4 mètres de requin tigre, donc mais d'une beauté incroyable. Et là, mon cœur... Voilà, mon cœur, mais il se met à battre à la chamade. Et là, j'oublierai jamais ce regard croisé avec cette femelle requin tigre.
Et comment t'es partie?
Elle est partie.
Elle est partie. Elle est venue te faire un petit check.
Elle est venue me faire un petit check.
Ah, c'est dingue.
Aucune agression, aucune agressivité, juste de la curiosité. Et c'est là que je me suis dit, cette histoire, il faut que je la raconte dans un film. J'étais toute fluette, toute débutante avec les requins tigres. Ça devait être quoi, ma troisième plongée de ma vie avec un requin tigre? Je ne suis pas une experte. Et justement, c'est ça que je veux dire dans le film, c'est que je suis loin d'être une experte. Je suis née en pleine forêt, je ne sais pas nager. Tout le monde peut s'assimiler à Cyrielle. Je ne suis pas née les pieds dans l'eau. Et là... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, je n'oublierai jamais ce regard croisé, ce eye contact de ma vie, au moment même où elle m'a vue, elle a fait demi-tour. Et pourtant, elle pouvait faire ce qu'elle voulait de moi. Elle pouvait s'approcher, ouvrir sa gueule, voir qui j'étais, genre me donner un coup d'aileron.
Un
respect total. Moi, en plus, je me suis dit, elle entend mon cœur. Là, il est parti, mais je ne sais pas combien sous l'eau. J'ai mis peut-être 3 minutes à me Ça m'a fait une frayeur. J'étais pas prête de me retrouver face à un requin-tigre à 20 cm de mon visage. Oui. Et après, je me suis de nouveau apaisée. Je me suis de nouveau mise à apprécier ce balai aquatique. Il y avait peut-être 5-6 requins-tigres qui passaient dans ces eaux cristallines. Je me suis dit, mais il y a eu un avant après cette plongée. Oui, j'ai eu ce banc de requin-marteau Galapagos. Oui, j'ai eu cette narcose qui était quelques jours auparavant avec le requin-renard. Où en fait, je suis partie tellement profond que moi, j'étais...
Voilà, t'es sirène, quoi. Tu revenais jamais.
J'avais mon kiff. J'ai cru que j'étais une sirène, t'as raison. Mais je me suis dit, c'est quoi cette bouteille énorme derrière mon dos, là? Ça fait tout mon poids. Et là, je me suis dit... Donc, les Maldives, j'ai beaucoup de souvenirs, c'est resté.
Et eux, ils ont eu peur, les gens qui ont plongé avec toi?
Bah en fait, ce qui est dingue, c'est que personne n'a vraiment prêté attention. Sur peut-être une dizaine de personnes dans l'eau, il n'y en a qu'un qui a vu qu'effectivement, il y avait un requin qui s'approchait de moi et que moi, avec ma petite tête de l'autre côté, là, comme si dans un été, il y en a qu'un qui s'est dit « Non mais Cyrielle, bouge ta tête,
il se passe quelque chose,
y a un requin qui fonce sur toi. » Enfin, qui fonce, c'est pas le mot. Qui s'approche de toi, qui est curieux parce que t'es le seul à ne pas le regarder, en fait. Comme quoi, ça peut vraiment arriver à tout le monde, même quand on a, c'est qu'on est dans... Voilà, c'est pour ça que c'est dangereux. On ne plonge pas comme ça. Il faut être dans un bon état d'esprit, être bien connecté à son corps, être apaisé. Parce qu'à n'importe quel moment, si on a l'esprit qui divague, sans jeu de mots d'ailleurs, divague, effectivement, c'est dangereux. Mais c'est comme, voilà, on ne regarde pas bien quand on traverse la route. Il y a un bus qui arrive. Il faut faire attention. Moi, je suis une rêveuse et parfois, ça peut me faire des surprises. Mais en même temps, mon cœur est rempli à chaque fois de ces merveilles, de ces expériences de vie où ce n'est pas donné à tout le monde. Et du coup, je me dis, mais j'ai envie de leur raconter cette histoire parce que ça m'est arrivé à moi, mais ça arrive en fait à tous ces... J'aimerais bien savoir, et ça, c'est vraiment mon challenge, c'est savoir combien de plongeurs plongent avec des requins chaque jour. Parce que c'est bien... c'est bien, entre guillemets, c'est relaté dès qu'il y a une attaque.
Oui.
Mais on ne relate pas peut-être les 15 000 plongées par jour avec des requins, avec toutes les espèces, que ce soit un blanc avec des tigres, avec des bulldogs, des macos, des peaux bleues, des pointes noires aux quatre coins du monde, et tout se passe bien. Et on est tous là avec nos GoPros, les relayer sur Instagram, sur les TikTok et tout. Et pourtant, qu'est-ce que c'est beau de voir...
Et tu penses qu'on ne les dérange pas quand on plonge avec eux, toi qui les aimes? Tu penses qu'ils ne seraient pas mieux sans nous?
Ah bah il faut pas... Bah, le problème, c'est que les hommes, voilà, quand on plonge avec eux, on les nourrit. Donc les requins, effectivement, après on dit, les requins s'approchent des côtes.
Oui. Non, les requins, ils ont bien compris qu'ils... Ouais.
Donc il faut pas les toucher. Donc il y a deux écoles. Il y a l'une des plus grandes expertes que je rêve d'interviewer qui parfois les caresse. Alors c'est vrai que parfois on a envie de toucher un aileron, etc. Je pense que c'est pas forcément les déranger, mais c'est comme un animal sauvage. Hein. Plus on les laisse tranquilles, mieux ils se portent. Et ça, je pense que les scientifiques s'accorderaient là-dessus. Après, je trouve que c'est beau pour nous parce que comme ce sont nous les prédateurs au final. C'est bien de faire des images et de faire remonter ces voix et cette coexistence possible en disant « Regardez, ils nous respectent, respectons-les. » Parce que respecter les requins, c'est respecter... En fait, c'est peut-être mériter l'océan. Et nous, on fait du commerce avec l'océan, pas eux. Mmh. Nous, on se fait des milliards sur le dos, entre guillemets, de l'océan, pas eux. Nous, ce sont des marchandises. On met une valeur sur un poisson, on met une valeur sur le tourisme, on met une valeur sur toutes ces pêches illégales ou non illégales. Respectons celui qui nous fait le plus peur parce que c'est un maillon de la chaîne alimentaire océanique primordiale, vitale. Et donc, je trouve ça magnifique, moi, de voir toutes ces personnes aux quatre coins du monde qui font des plongées, qui font des apnées avec les requins parce que c'est ce qu'on veut peut-être montrer nos enfants. Ça s'appelle l'éducation. Je pense que montrer à ses enfants, regarde le requin, il est gentil, il faut le préserver, il ne faut pas manger ses ailerons, il faut éviter de les mettre dans des aquariums.
Ouais.
Peut-être que ce sont des beaux messages pour effectivement on va dire le devenir de notre humanité.
C'est lesquels les plus dangereux? Il y en a qui sont vraiment plus dangereux pour l'homme ou pas?
Il y a à peu près 5 espèces. Il y a le bulldog, le requin tigre, le requin blanc, le mako. Et ce que j'ai vu aussi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Cet été, j'ai plongé avec les paratas. Les paratas, c'est le nom qu'on donne en Polynésie française. C'est le requin, le longimalus. Il est magnifique. Il a un aileron complètement rond, un peu ovale. Vous le tapez, c'est le requin océanique longimalus. Et au bout de son aileron, donc arrondi, et c'est blanc. Qu'est-ce que c'est magnifique! Mais qu'est-ce qu'il est curieux, ce petit coquinou. Donc cet été, on était en catamaran et à un moment, on en a vu un, puis ensuite trois. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était drôle. Après, on en a ri, on était beaucoup de nanas. On s'est toutes affalées les unes sur les autres, comme des phoques sur le kata, avec nos masques encore sur le visage et les palmes sur nous. Mais on s'est avachies les unes sur les autres. C'était drôle parce qu'on nous a dit « go to the boat, go to the boat ». Il y avait trois paratas qui nous encerclaient.
Ah ouais.
Et ils sont connus en Polynésie pour avoir fait des attaques parce qu'ils sont curieux. Donc, si on les repousse pas, ils viennent dire... Ils viennent croquer
pour voir un peu ce qui se passe.
Voilà.
Quoi.
Donc on avait de la chance. Il y avait une guide polynésienne, Poema Kuku, avec son appareil photo, et elle allait au plus près d'eux. Et voilà, ils n'ont pas attaqué la caméra. Et simplement, voilà, il y a une distance. Pareil, mon amie apnéiste, elle était là et elle avait une perche aussi. Moi, j'étais collée à Julie, moi. Et c'était incroyable. Et elle les repoussait simplement. Mais voilà, simplement, ils étaient curieux. Mais effectivement, on sentait qu'ils nous avaient identifiés et ils étaient en train de se dire « Mais c'est quoi ce troupeau de plongeurs hein? C'est quoi ce, ouais. ce... ?» Donc, on est rentrés. Mais on n'a pas eu besoin d'harpon, on n'a pas eu besoin de sortir un couteau. Simplement, voilà, mettre une distance, une caméra, une perche, rester en groupe. Ah oui, ça aussi, c'est rester en groupe. On ne va pas s'éparpiller, on ne va pas s'isoler. Hein? Mais c'est comme si on croise des rhinocéros ou des hippopotames quand on fait un safari. Eh ben, il faut rester
en
groupe. Voilà. Ben, oui, ouais. On ne va pas s'échapper. On ne va pas se rendre encore plus vulnérable quand on est sur leur territoire. Donc voilà, et donc ça reste des anecdotes où on a eu toutes surtout eu peur. On a vite rentré sur le catamaran et ça reste des merveilleux souvenirs et de très belles images en plus.
Ah bah j'ai hâte de voir. Et où est-ce que tu rêves de plonger? Il y a des endroits qui te font vraiment rêver?
C'est une bonne question. Je rêve de retourner aux Bahamas. Les Maldives, c'est magnifique. J'aimerais bien plonger à Hawaï. Les Galapagos, l'Arche de Darwin, il y a beaucoup de gros, quand on dit des gros, donc des raies, des dauphins, des requins, des tortues, etc. Ça doit être dingue, des baleines aussi. Après, je connais pas...
Le Nord, non? Toi, t'as trop froid?
Ouais, j'ai vraiment froid. J'ai eu beaucoup... En Afrique du Sud, j'étais avec du 8 ou 9 mm. J'ai eu extrêmement froid. Et en fait, d'habitude, j'aime bien ne pas forcément être collée au moniteur, justement. Pas loin, bien évidemment, mais pas non plus être collée. J'ai jamais été aussi collée au moniteur. Peut-être on peut remonter, là, il faut que je remonte. J'étais mais vraiment frigorifiée, alors que j'étais entourée de requins. Donc grâce aux requins, j'ai pu passer le temps et oublier le froid quelques minutes. Mais le froid, je m'en rends compte, je pense que c'est assez particulier au petit gabarit, mais c'est vrai que je suis frileuse. Donc dans les eaux chaudes, donc je rêve de retourner dans les eaux cristallines aux Bahamas, puis peut-être les Coco Island aussi, d'aller à Malpelo aussi, là où je veux faire un shoot avec une super scientifique.
C'est où Malpelo?
Malpelo, c'est à 500 km des côtes colombiennes. Il y a une franco-colombienne qui a protégé justement ce site, et aujourd'hui c'est un des sites prisés en plongée, parce que qui dit préservation dit en fait une biodiversité hyper riche, qui dit que c'est le paradis des plongeurs en fait. Du coup, ça veut dire qu'il y a toute une biodiversité.
Bah, s'il
n'y
a pas trop de pêcheurs et pas trop de...
Apparemment, il y en a, c'est ce qu'on me disait. Donc, c'est protégé, c'est inscrit également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a encore des pêcheurs illégaux. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on dit c'est interdit, oui, mais en fait, il n'y a pas des gendarmes à tous les miles. En fait, tous les miles donc...
Non, puis après, il y a des gens qui ont besoin de se nourrir aussi. Quoi. Faut qu'il y ait un bon équilibre entre tout. Quoi.
Oui, mais ils ne se nourrissent pas forcément de requins.
Non, pas de requins. Non. Dans les zones protégées, il faut aussi laisser les pêcheurs pour pouvoir nourrir les populations, quoi.
Et voilà, quand ils font des pêches illégales avec des gros, c'est ça le problème. Voilà. Et puis, je pense que malheureusement, la corruption existe aussi. Voilà.
Et est-ce qu'en France, je peux voir des requins ou pas?
Oui. Alors moi, j'en ai pas vu, mais en Méditerranée, apparemment, il y a des peaux bleues, les roussettes. En Espagne aussi, j'ai parlé aussi avec un plongeur chevronné qui me disait que sur les côtes espagnoles également, je crois même qu'on peut voir des blancs. J'ai vu même des articles en Méditerranée qu'on voyait aussi des... On avait vu un ou deux requins blancs pas très loin des côtes. Donc oui, moi j'en ai jamais vu, c'est pour ça que je ne m'épends pas là-dessus.
Mais il y en a.
Mais il y en a.
Trop bien. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
J'ai hâte
Marie.
De voir ton film maintenant.
J'espère que ça vous a plu et qu'en tout cas, voilà, vous avez plus envie d'en savoir plus sur nos amis, les requins.
Merci beaucoup. C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite !
Merci et à bientôt.